On joint Amélie Bouchard, animatrice formatrice à la Jarniguane, Centre d'alphabétisation de Villeray. Bonjour Amélie.
Bonjour Hélène.
Ben, ça me fait plaisir de vous retrouver. On a déjà échangé ensemble lors d'une entrevue sur l'alphabétisation, l'importance des communications accessibles à tous. C'est le sujet qui nous intéresse, qui vous intéresse. Vous êtes à la Jarniguane depuis plusieurs années, Amélie.
Oui, ça fait 16 ans que je suis animatrice à la Jarniguane et ça fait presque autant d'années qu'on lutte pour l'accessibilité de l'information aussi.
Alors, quand on pense à l'alphabétisation, on pense à l'enseignement de la lecture et de l'écriture, on pense à apprendre à lire, à écrire, mais il faut plus que ça pour améliorer l'accès à l'information. C'est ce que vous racontiez dans une entrevue publiée dans Le Devoir récemment.
Bien, en fait, c'est que nous, dans notre approche d'éducation populaire, d'alphabétisation populaire, c'est sûr qu'on aide les gens à améliorer leur niveau de lecture et d'écriture, mais on pense qu'il faut aussi travailler pour que la société s'adapte. Hein? Ces personnes-là font partie de notre société. Quand on pense aux chiffres, là, c'est quand même 53% de la population.
C'est énorme.
Oui, qu'il n'y a pas un niveau, on parle de niveau de littératie, là, ça veut dire la capacité d'utiliser l'information, de la comprendre et tout ça.
Ouais.
Donc, c'est quand même plusieurs personnes qui n'ont pas un niveau top, disons, pour débrouiller comme ça dans la société d'aujourd'hui. Les exigences augmentent aussi. Mais c'est ça. Donc, il faut que la société considère qu'il y a des personnes, et plus qu'on pense, qui n'utilisent pas Internet, qui ont de la difficulté à lire des textes compliqués, un article de journal de 300 mots.
Alors, quels sont les services?
Il faut que la société s'adapte pour ces personnes-là.
Oui, parce que, vous parlez d'adaptation. On parle souvent de transport adapté, de maison adaptée, mais ici, on pourrait parler de langage adapté. Et Amélie, quels sont les services publics où il faut améliorer justement l'accès à une information compréhensible, intelligible pour tout le monde?
Bon, il y en a plusieurs, je dirais tous.
Quelques exemples? Oui, tous.
Oui, bien nous, c'est sûr que ça fait des années, par exemple, des gens à l'aide sociale, là, aussitôt qu'ils reçoivent une lettre de l'aide sociale, ils accourent chez nous puis ils ont toujours peur, là, ça crée des grands stress.
Ah, hein, oui.
Ils ont toujours peur, c'est leur survie, là, leur petit maigre salaire pour survivre. Et donc, et c'est toujours écrit d'une façon compliquée. Même nous, des fois, il faut lire. On ne sait même pas. Puis là, il faut appeler pour avoir accès. Voyons, qu'est-ce que ça veut dire pour cette personne-là? Puis en tout cas.
C'est un jargon là qui n'est pas nécessairement facile à comprendre.
Oui, puis là, c'est le premier qui me vient en tête parce que, tu sais, Emploi Québec, tout ça, ils ont une place importante dans la vie des gens, mais c'est sûr que nous, on travaille depuis très longtemps l'accès à l'information médicale, donc auprès des médecins, des différents professionnels de la santé. Il y a quelques années, on a fait aussi un autre projet pour sensibiliser les intervenants sociaux, nos participants, c'est eux, hein, toujours qui nous ciblent, là, les gens qui veulent aller sensibiliser, le monde juridique, les gens du service à la clientèle en général, là, dans les services publics.
Les médecins, les avocats, même, c'est pas évident même pour quelqu'un qui a un haut taux de littératie. Alors, imaginez pour ceux qui ont des difficultés, là, qui ont un faible taux, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de littératie.
Un niveau de littératie, oui. Mais c'est ça, puis souvent les gens ils disent, c'est difficile pour tout le monde, tu sais, comme ça. Mais moi, ce que je rappelle, c'est que moi, par exemple, je suis allée à l'université, je m'en vais rencontrer mon médecin, il me parle dans son jargon médical, j'ai une certaine confiance en moi, en mes compétences, pour dire, ah là, il est en train de me parler dans son jargon médical. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sauf que quand on est peu alphabétisé, puis que toute notre vie, partout, on ouvre la télé, les nouvelles, c'est compliqué, tout est compliqué, on pense que c'est nous. C'est toujours nous. Alors, on a de la difficulté à dire, oh là, non, c'est lui qui parle dans son jargon, je vais lui poser des questions. On est honteux. Ces personnes-là portent le poids de la honte, des préjugés qu'ils vivent depuis toujours, là, du fait d'être analphabète.
Oui, alors heureusement que la Jarniguane existe pour ces gens-là. Il y a d'autres organismes également, mais aujourd'hui, on focalise sur vous. Vous avez créé plusieurs outils pour votre clientèle. Des vidéos, entre autres.
Oui, mais en fait, c'est eux qui les ont créés.
Ah, c'est notre... avec eux que vous les avez créés. C'est à partir de, comme vous le disiez tantôt, de leurs besoins, de ce qu'ils vivent au quotidien.
Oui, c'est vraiment notre approche en éducation populaire. Donc, les gens, ils viennent apprendre à lire, à écrire, mais en même temps, c'est, je dirais, presque un prétexte pour... En fait, c'est pas un prétexte, c'est un outil pour prendre plus de pouvoir dans la société. Donc, on fait beaucoup de projets collectifs. Donc, ça part de leurs préoccupations à eux.
Oui.
Et oui, on a beaucoup utilisé les vidéos parce que c'est une bonne façon pour eux de s'exprimer. C'est plus facile que par écrit. Puis le fait de voir et d'entendre ces personnes-là, ben, on souhaite toujours que ça vienne toucher la corde sensible des gens qu'on veut sensibiliser, puis que ça vienne les toucher, hein, quand on voit qu'on a affaire à une personne qui veut, une personne qui explique son vécu. Donc, c'est des outils qu'on a beaucoup utilisés. Puis cette année, je dirais, on essaie d'être encore plus actifs parce que ce que j'allais dire, c'est que depuis 2 ans, là, notre cheval de bataille, c'est au niveau de la santé publique. Là, nos participants ont été très largués. Puis je dis non pour tous les participants des groupes d'alphabétisation populaire au Québec. Hein, il y en a presque 80 qui sont membres du même regroupement que nous, le RGPAQ.
Mm-hmm.
Et on sait, parce qu'on se parle, que tout le monde a fait un gros travail d'information auprès des participants depuis le début de la pandémie. Sinon, ces personnes-là étaient complètement perdues au niveau de tout ce qui... On est bombardé, hein, par l'information depuis ce temps-là. Et imaginez, c'est anxiogène, hein, c'est source de stress pour nous. Imaginez pour quelqu'un qui est faiblement alphabétisé. Là.
Mais sentez-vous l'ouverture des professionnels? Là, vous parlez de problèmes avec les personnes qui travaillent en santé publique, qui communiquent peut-être pas nécessairement clairement l'information pour tous et toutes?
Mais en fait, nous, on a été très agréablement surprises en début d'année dernière parce qu'on a décidé de créer un projet de coalition pour sensibiliser, justement, percer le monde des communications, les départements de communication en santé publique, dans les CIUS, et même des médias, parce que les médias sont aussi un relais de cette information-là.
Mm-hmm.
Et on s'est dit, on sera pas capable, la Jeanne Gouin, de faire ça tout seul. On est allé chercher plein d'alliés et on a créé une coalition qu'on a appelée Communication, qui a une quinzaine de membres. Donc, c'est des gens, des professeurs d'université, des gens qui travaillent en santé publique. Donc, la plupart des personnes au Québec qui s'intéressent à la question de littératie et santé se sont joints à nous. Donc, on est vraiment heureux. Et des gens de la santé publique aussi. Donc,
c'est encourageant.
Je pense qu'une ouverture. Oui, je pense qu'il y a une réflexion. Hein. Le ministère de la Santé avait déjà commencé à travailler une stratégie en littératie en santé avant même la pandémie. Et là, il va poursuivre son travail. Puis on essaie, nous, d'influencer ce travail-là aussi. On essaie de leur parler de ce qu'on a. On a fait un gros sondage auprès des participants, voir qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant cette année-là. On essaie de voir c'est quoi les obstacles au changement chez les gens en communication des médias et des secteurs de la santé publique et tout ça.
Et qu'est-ce qu'ils ont vécu de plus...
On essaie de nourrir cette réflexion-là du ministère aussi.
Amélie, le temps nous bouscule, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu de plus problématique, les gens qui fréquentent la Jeanne Gouin, en lien avec la pandémie?
Ah mon Dieu, mais c'était une incompréhension constante au quotidien. À chaque fois qu'il y avait des nouveaux mots, des nouveaux concepts, hein, c'est tous des concepts abstraits qui arrivaient. Tu sais, au début, distanciation physique, là, aujourd'hui, ça a l'air bien clair,
c'est
mais au
vrai.
Début, même ce mot-là n'était pas clair. Puis des mots comme asymptomatique, tu sais, des gens qui comprenaient pas, mais pourquoi je peux pas voir mes petits-enfants, ils sont pas malades. Ouais, mais là, on comprend que peut-être le mot asymptomatique n'a pas été compris, tu sais, des gros bulles, des... plein de concepts comme ça. Puis ce qui était difficile beaucoup, c'est que, tu sais, quand on dit, on construit l'avion en plein vol, donc ça change de jour en jour, mais ça, pas tout le monde qui est capable de comprendre ça. Puis là, ce qu'ils voient, c'est que, une journée, on dit ça. Par exemple, les masques, c'était pas bon au début. Là, le lendemain, mais quelques jours après ou quelques mois après, là, c'est rendu bon. Là, les gens, ils perdent confiance. Puis on a découvert que la confiance en la source d'information, c'est le principal, dont les gens, ils vont écouter des personnes en qui ils ont confiance.
Amélie Bouchard, c'est un plaisir de vous parler, animatrice, formatrice à la Jarniguan, Centre d'alphabétisation de Villeray. On n'a pas fini de parler avec vous, on va vous réinviter sur l'importance des communications accessibles à tous. Merci, au plaisir.
Merci, au plaisir.